C'est la Terre au carré sur France Inter, et c'est très très loin la Terre au carré, c'est dans le Vercors, c'est ça hein.
Oui, bonjour Laetitia, bonjour. On est dans une prairie bonjour, montagneuse, au milieu d'un décor bucolique et printanier, parsemé de milliers de fleurs.
Toute la semaine, c'est ça.
Voilà, on va vous énerver tous les jours à la même heure, et là, pour se faire pardonner, on vous envoie un bouquet virtuel de jonquilles et de crocus. Voilà.
D'accord, ça de la drôle.
Bonjour, je suis Christophe de Saint-Dizier, membre du GNSA créé par Thomas Braille que vous avez récemment invité dans la Terre au Carré. Je suis porte-parole des arbres et je leur ai composé une chanson dont ils ont écrit des paroles. S'en est suivi un clip avec de magnifiques images tirées du film « Les arbres remarquables ». Je suis visible sur le net en tapant « Un arbre libre ». Merci à vous d'en parler.
Bonjour à toute l'équipe, je suis Clémentine de Bouer en Mayenne. Et je vous appelle suite à un message entendu d'une auditrice qui disait que suite à un reportage qu'elle avait vu sur l'exploitation abusive des fleurs, notamment au Kenya, et de la pollution et du drame sociétal que cela a créé, elle disait que du coup elle n'achetait plus du tout de fleurs coupées. Et ben je trouve ça bien dommage parce que moi-même je suis fleuriste. Et je fais pousser moi-même mes fleurs. Quand je n'en ai pas, je me fournis auprès de fermes florales locales ou d'horticulteurs locaux. Et il y a un véritable mouvement qui est poussé par le collectif de la Fleur Française. Je vous invite vraiment à aller sur leur site internet. C'est un petit bijou, un annuaire où vous allez retrouver tous les fleuristes, les horticulteurs, les grossistes proches de chez vous. Donc non, n'arrêtez pas d'acheter des fleurs coupées, s'il vous plaît. Au contraire, plébiscitez le local et le français. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.
Bonjour la Terre au Carré, je m'appelle Daniel, j'habite à Marly, près de Metz. J'ai vu passer une info que je n'ai pas pu vérifier mais qui me paraît plausible. Il y aurait une corrélation entre l'augmentation du nombre de tiques et donc la maladie de Lyme et la baisse de la population des renards. Or, qui tue les renards, a priori pour le plaisir, puisqu'on n'en fait rien, vous avez deviné, les chasseurs. Foutez la paix aux renards, ce sont des auxiliaires des agriculteurs. Voilà, bonne journée, à bientôt.
Et merci pour vos messages. Le répondeur de la Terre au Carré, c'est comme tous les jours, bien sûr, pour vous entendre. Et amis de la Drôme, nous attendons en particulier vos messages pendant toute cette semaine que nous passons chez vous. Le numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 45 45. Et c'est donc dans la Drôme et sous le soleil qui est en train de percer, Camille.
Ça fait du bien.
Voilà, qu'on s'installe avec toute l'équipe de la Terre au Carré pour la saison 3 de nos 4 saisons. Après l'automne dans les Vosges, l'hiver dans les Pyrénées, voici donc le printemps dans ce département drômois où l'écologie connaît une histoire tout à fait particulière. C'est cette histoire que nous allons vous raconter au fil de nos pérégrinations pour comprendre l'état d'esprit de cette région avec celles et ceux qui, depuis donc longtemps, ont imaginé un monde plus durable en mettant en place de nouvelles formes d'agriculture, d'habitat participatif et de liens avec le vivant. Et ce sera l'occasion justement de vous faire découvrir les écosystèmes que nous allons explorer, comme cet alpage où nous nous trouvons aujourd'hui avec nos invités pour observer le réveil du printemps. Nous sommes donc sur le plateau de Fondure, à 1500 mètres d'altitude, dans cet immense espace naturel avec une flore, une faune et une géologie très riche. Et pour en parler pendant toute cette heure en direct, nous sommes avec le botaniste Luc Garraud, la guide naturaliste Véronique Thierry, le géologue Pierre-Aymar Biron et l'archéologue et préhistorien Régis Picavet. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Ils sont en forme, on va les retrouver dans un instant pour comprendre ce paysage qui nous entoure et voir ce qu'ils nous racontent justement de la Drôme en cette période particulière de l'année. À 14h30, Camille Cronier, vous passerez bien sûr au vert et même un peu en classe verte cette semaine.
C'est
puisque
vrai.
Vous allez suivre différents spécialistes sur le terrain.
Oui, alors j'ai commencé par la spéléologie, j'ai une vie difficile en ce moment, à la rencontre du peuple invisible des grottes. Par là. Oups.
Par là, on va vous passer au plus facile. Là, il y a du monde. Hein. Oh là là, un diplour.
Un quoi?
Diplour, c'est un insecte. Et là, il y a des coléoptères. Diaprisus, je pense.
Un métier à risque, Mathieu.
Voilà, et puis tous les jours avant 15h, notre reporter Anaëlle Verzeau nous emmènera sur le front des luttes drômoises. Et pour sa première escale aujourd'hui, Anaëlle est allée à la rencontre du collectif Stop Tricastin à Saint-Paul-Trois-Châteaux, où se trouve la centrale nucléaire du Tricastin. Voilà donc pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisée par Valérie Ayestaraï et Charles de Cilia. Le dossier a été préparé par Anna Massardier, Guillaume Rialan, Olivia Branger, Nicolas Mathias et Arnaud Caillet assurent la réalisation et la technique de cette émission.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
La Terre au carré dans la Drôme, c'est toute la semaine sur France Inter.
Qu'est-ce que vous voyez, Véronique? Je voulais nous faire signe dès le début de l'émission.
Oui, là. Bah, là, on a énormément de chocards qui nous passent au-dessus de la tête, hein, les chocards à bec jaune. Donc, ce sont des corvidés qui vivent de façon grégaire. Et donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu le chant, ouais, qui est assez curieux pour des corvidés. Généralement, le corvidé a un chant très rauque. Ouais. Et là, c'est assez flûté, c'est assez joli.
Le chant du chocard sur le plateau de Fondurle, dans le massif du Vercors. Voilà où nous sommes donc aujourd'hui pour ce premier direct de la Terre au carré dans la Drôme. Olivia et Nicolas, nos techniciens, ont l'air rassurés quand même des conditions météo. Pas trop de vent, Olivia, ça va ?
Non, ça va.
Bon, Nicolas, le réseau passe bien ici ?
On a une belle antenne juste en face de nous, donc voilà, on est rassuré.
1500 mètres d'altitude. Luc Garraud, vous êtes avec nous. Vous êtes botaniste de la flore drômoise, botaniste au Conservatoire National Botanique Alpin. Et évidemment, hein, ce qui nous a frappé, Camille, dès qu'on est arrivé, c'est cette moquette.
Tapis de fleurs. Magnifique. Hein,
on est vraiment à la saison où tout ressort, là. Hein.
Est-ce qu'on peut décrire les couleurs déjà, ce qu'on voit ?
Bah, on a des tendances de jaune et de blanc. C'est en général assez caractéristique. Les couleurs chaudes arrivent un petit peu plus dans l'été. Puis là, vraiment, elles attendaient, hein, derrière la neige. Là, l'hiver a été rude. Ouais. Il y a eu beaucoup de neige. Et puis, elles attendent. Donc, ces espèces sont pour la plupart des bulbeuses. Donc, comme les crocus, en premier à sortir juste derrière les névés. Viennent après les jonquilles et les fameux érythrones dont on va parler. Et vraiment une explosion avant l'été, avant une prairie riche d'une autre façon. Ouais. Quoi.
Même
vraiment,
si on a encore un peu de neige ici.
Il
ouais. Hein.
Ah, y a beaucoup de neige encore.
Il y a quelques plaques de neige encore.
Il y a encore beaucoup de neige. Il a neigé il n'y a pas très très longtemps encore, et des quantités. Donc ça donne de l'humidité, de l'eau au sol. Et donc c'est très propice pour ces espèces.
Mais les fleurs sortent quand même, Véronique Thierry, juste à côté de la neige. Il n'y a pas de problème.
Ah oui, c'est même très très étonnant parce qu'on a l'impression qu'on peut remonter le temps. Quand on est près d'un névé, on a vraiment la première floraison, les premiers crocus. On s'éloigne de 5 mètres, on commence à avoir les érythronium, on s'écarte encore un petit peu, on va avoir des renoncules, et quand on s'écarte encore plus loin, on a les jonquilles. Donc, et en fait, en revenant en arrière, on remonte le temps.
Ouais. Luc Garraud, alors cette flore particulière du printemps, elle a un nom aussi, hein.
Ouais, alors on appelle ça une, enfin c'est un terme technique qu'on utilise, c'est une géophytée, donc c'est l'ensemble de ces plantes ont un cycle biologique lié au bulbe, c'est-à-dire la saison, je dirais, morte pour ces espèces. Une fois qu'elles ont fini leur cycle, elles le passent dans le sol. Il y a d'autres espèces qui utilisent des graines pour passer la morte saison. Et donc, elles passent leur temps au printemps à commencer à fleurir. Une fois que la floraison est faite, les feuilles poussent. Ces feuilles vont permettre au bulbe de se régénérer, ouais. Ce qui n'est pas le cas de la prairie qui va arriver dans l'été, où il faut d'abord que la plante fasse des feuilles et va fleurir une fois que les feuilles seront présentes pour donner des... Donc on voit bien que l'énergie n'est pas utilisée de la même façon pour l'espèce.
Ça veut dire que c'est un peu une course contre la montre pour les fleurs là en ce moment, avant vraiment que la prairie s'installe, donc il y a ce laps de temps entre la neige et la prairie.
Et oui, on va parler de compétition, ouais. Il y a vraiment une compétition entre les espèces. La prairie de l'été va être beaucoup plus haute que celle qu'on a là pour l'instant, un gazon rase comme ça. Et donc les espèces, elles se dépêchent de faire leur cycle. Ces espèces qu'on voit là en ce moment, elles se dépêchent de faire leur cycle pour arriver à ne pas être mangé par les espèces qui vont arriver après. Quoi.
Ah, carrément.
Et oui. C'est quoi le record alors quand on est dans la compétition, le record de rapidité, c'est combien ?
Ah ben là, je sais pas. Là, une espèce comme ça, des espèces comme celle-là, il faut qu'elles fleurissent absolument à toute vitesse, trouver les premiers pollinisateurs.
Donc c'est quoi ? C'est en quelques jours ou quelques semaines quand même ?
Alors la floraison, c'est quelques jours. Ouais. Hein, c'est un peu échelonné parce qu'il y a différents faciès. Mais c'est quelques jours, quelques semaines. Après, on ne va plus voir leurs feuilles. Elles vont être enchâssées dans la prairie. Ouais. On ne les verra plus. Elles finiront leur cycle comme ça.
Et alors,
au moment de l'été, il n'y aura plus du tout de traces de ces espèces-là. Plus
Véronique, tout. Ce qui est étonnant, c'est que là, il suffit de faire quelques mètres pour découvrir de nouvelles espèces de fleurs. Parce que là, on est un petit peu en pente. Hein. On va grimper d'ailleurs de plus en plus haut. On est à 1500 mètres là, ici. Hein. Donc le sol change de nature. nature et donc les espèces de fleurs changent en même temps.
Oui, alors au niveau de la géologie, c'est vrai que ça a une influence importante puisque selon si on est sur du caillou ou si on est dans des creux, ce ne sont pas les mêmes espèces qui poussent, puisqu'elles sont très dépendantes de la qualité du sol. Mais là, voilà, on commence à voir là déjà, hop, la scylle à deux feuilles par exemple, celle qui
c'est
est
cette
ici,
petite fleur bleue,
la petite fleur bleue, la magnifique. Allez, une petite loupe pour regarder de plus près.
Ah, ça, c'est bien d'avoir prévu ça.
Et en plus, ça, c'est l'accessoire indispensable.
Voilà. Mais oui, parce qu'en fait, ça permet de faire de la gymnastique. Ah. De quel droit on se permet, nous, les humains, pour approcher les fleurs de nos yeux, alors qu'en faisant une petite génuflexion, finalement, on les voit de près.
C'est vrai. Hein,
ah, et donc, alors, qu'est-ce qu'on est? Alors, on est censé voir, on va le décrire, mais j'ai
on
peur
va zoomer
de dire
pour
des
les
bêtises.
Auditeurs de la Terre au Carré, Véronique. Alors, voilà. Décrivez-nous cette petite fleur-là.
Alors, c'est vous qui allez la décrire. Dites-moi, combien voyez-vous de pétales? Vous savez ce que c'est que les pétales?
6 pétales, moi, j'en vois.
Faux. 7.
Comment ça, faux? Moi, j'en vois 6.
Ah non, 6. Moi aussi, j'en vois 6.
Faux.
Ah non, il faut compter le central ou pas?
Non, là, c'est une plante de la famille des liliacées, donc de la famille des tulipes. Hein? Et dans toutes les fleurs, il y a des sépales à l'extérieur et des pétales sur l'intérieur. Et la particularité de ces espèces, et entre autres des tulipes et des cils, c'est que les sépales extérieures ressemblent aux pétales.
Ah,
donc
alors,
quand vous dites, qu'il y a 6 pétales, il y a 3 pétales et 3 sépales colorées.
C'est, pour ça.
C'est spécifique de la famille des liliacées.
Il y a des petits points, comment je dois dire ça?
Des étamines.
Des étamines, merci.
Voilà, c'est les organes mâles.
Qui sortent, il y en a 6, on est d'accord?
Il y en a 6, exactement, c'est une liliacée, il y en a 6. Voilà.
Et si on regarde à la base de la fleur est... on a 3 fleurs installées au bout de
d'une tige.
Voilà, tu peux appeler ça une tige si tu veux, il n'y a pas de souci.
C'est quoi le jargon sinon? Pardon, mais le vrai terme alors?
Le pédoncule de la fleur.
Le pédoncule, d'accord.
On va l'appeler comme ça, tu es d'accord, Luc? Moi, je ne suis pas spécialiste.
Les botanistes appellent ça une panicule.
Ah, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord entre vous.
Ah, mais moi, je ne suis pas. Moi j'approche les fleurs de façon.
C'est une inflorescence qui est dressée.
Voilà.
C'est une inflorescence dressée. Si elle était pendante, on appellerait ça une grappe. On voit très bien ce que c'est qu'une grappe. Donc elle est dans l'autre sens. Celle-ci est dressée, donc c'est une panicule.
Mais c'est surtout la chose sur laquelle sont accrochées les fleurs. Comment appelles-tu ça? Alors cette sorte de tige.
C'est la tige.
La tige florale. Ah,
okay. Et donc il y en a 3 sur.
Et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'à la base de chacune de ces fleurs, on a 2 feuilles, uniquement 2 feuilles.
D'où son nom.
D'où son nom, la scylle à deux feuilles.
Combien il y a d'espèces de fleurs ici, Luc? Parce que vous avez fait l'inventaire quand même de cet endroit
Surtout,
du Vercors où nous sommes.
Surtout, on le continue. Hein, on le continue. Sur le Vercors, il y a 1800 espèces. On parle uniquement des plantes à fleurs et fougères.
Ouais.
On ne rajoute pas les 500 espèces de mousses. Hein, sur lesquels on marche en ce moment là.
Ah bon?
Et donc, qu'on abîme donc évidemment.
Non, on n'abîme rien.
Ah bon?
Et donc sur un alpage comme celui-là, c'est plus de 500 espèces.
Ouais. Et alors on parlait des bulbes tout à l'heure. C'est intéressant parce que c'est à cette période donc du printemps, c'est ce qui a permis à la fleur de se protéger pendant tout l'hiver finalement. Hein.
Ah oui, c'est vraiment un système absolument ingénieux pour la plante. Hein. C'est d'arriver à faire des réserves. Hein. Faire des réserves dans le sol et de passer toute cette saison pour repousser au printemps. Donc tout l'hiver, la plante attend avec impatience de pouvoir ressortir.
Donc c'est vraiment sa capsule de protection finalement.
Exactement, c'est vraiment sa capsule de protection. Son cycle est très court en définitive.
Qu'est-ce qui détermine les couleurs des fleurs? Le fait qu'elles soient blanches, jaunes, bleues, là comme on est en train de voir, peut-être plus tard roses pour certaines, on ne sait pas.
Moi je ne sais pas.
Alors en fait, je travaille beaucoup sur les couleurs végétales puisque je fais de la teinture végétale, la teinture avec les plantes. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que les plantes fabriquent des colorants, pas pour nous faire plaisir à nous, évidemment. Hein. Nous, on en profite, mais c'est pas pour nous. Elles les fabriquent parce que pour elles, c'est des molécules qui sont actives pour leur vie et pour leur survie. Donc, il y en a certaines molécules qui vont être des médicaments. Et d'autres molécules qui vont aider la plante à supporter l'ensoleillement. C'est ce que l'on trouve, par exemple, dans le précurseur de l'indigo, dans l'indigotier. Le précurseur de l'indigo est un filtre solaire qui protège les jeunes feuilles des brûlures du soleil. Et ici, dans les fleurs bleues, on a des précurseurs de l'indigo qui protègent justement des brûlures du soleil. Dans d'autres, dans les racines rouges vont et avoir un effet antifongique, antibactérien, qui protège la plante des attaques, des pourrissures possibles.
Voilà. Luc, on a choisi de commencer cette première terre au carré drômoise ici dans cet alpage, c'est-à-dire que nous sommes en altitude, mais c'est un paysage parmi tant d'autres de la Drôme, parce qu'il y a vraiment toute une variété de sites ici à voir.
Oui, alors bien sûr que c'est un département que je connais très bien, beaucoup voyagé sur ce département, et c'est vraiment extrêmement diversifié,
ouais.
Puisqu'on est aux portes de la Méditerranée, on est dans les préalpes du Nord, avec le massif du Vercors, et tout de suite, au bord des falaises, on tombe sur la vallée de la Drôme, où là, on est dans le domaine des montagnes méditerranéennes, déjà. Ouais. Et donc, évidemment, que le climat, en fonction le climat est bien différent, donne une flore absolument différente.
Allez, dans un instant, on va plonger nos yeux dans un mètre carré de prairie. Vous allez nous dire tout ce qu'on peut observer, justement, sur une si petite superficie. Et puis ensuite, on évoquera, évidemment, la géologie de cet endroit tout à fait particulier. On va même parler des hommes de la préhistoire. Ce sera juste après The Black Keys, Wild Child, sur France Inter.
Sur France Inter.
Et si vous nous rejoignez, nous passons cette semaine printanière dans la Drôme pour nos quatre saisons de la Terre au Carré. Nous sommes donc aujourd'hui dans un très bel alpage à 1500 mètres d'altitude sur le plateau de Fondurle où Luc Garraud et Véronique Thierry nous donnent avec Camille un petit cours de botanique, mais aussi de faune, hein, Véronique, parce qu'on a parlé des chocards, c'est ça, à bec jaune. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme animaux ici alors?
Alors, ce qui est caractéristique au début du printemps, c'est la sortie des marmottes, évidemment.
Ouais.
Alors, on n'est pas en Vanoise, on n'est pas dans le Queyras, elles ne viennent pas manger le sandwich dans la main des visiteurs, parce ouais. que, en fait, elles avaient disparu, elles avaient été toutes chassées, et on en a relâché. Mais il n'empêche qu'elles sont bien présentes.
On en a vu hier, en venant ici faire le repérage, mais là, pas cet après-midi encore.
Ah, mais ouais. on est peut-être un peu trop nombreux, un peu trop bruyants.
Ouais. On les dérange,
hein, on les dérange. Là, on voit une entrée de terrier, juste devant, là, les cailloux qui ressortent
oui.
un peu jaunes.
Ouais, ouais.
Il y a un autre terrier de l'autre côté, là-bas, les pierres jaunes au-dessus. Et en fait, là vraiment, la particularité de cette espèce, c'est qu'elle hiberne. Elle est capable, l'hiver, de descendre la température de son corps à 4 degrés, alors que le reste de l'année, elle est à 38 à peu près, comme nous. Sa respiration diminue, ses battements cardiaques diminuent. Et en fait, elle fait des réserves toute la belle saison en mangeant les belles fleurs qu'on a sous les pieds, pour doubler de volume, doubler son poids, et à la fin de l'hiver, une fois qu'elle se réveille, elle se réveille parce qu'elle a utilisé toute la graisse pour sa survie. Ça déclenche une hormone de réveil.
Ouais.
Et c'est pour ça que c'est important de ne pas déranger les marmottes, de pas les empêcher de manger au moment où elles doivent manger, parce que si elles n'ont pas assez de réserve de graisse, elles se réveillent trop tôt.
Mmh.
Puisque c'est automatique le réveil, elle se réveille trop tôt et elle se réveille quand il y a encore beaucoup de neige. Donc elle meurt de faim. À ce moment-là, elle meurt de faim.
Enfin, celle qu'on a vue hier était bien dodue quand même.
Hein.
On peut en juger d'ailleurs sur les photos qu'on a mises sur le compte Instagram de la Terre au Carré, parce qu'on a pu en prendre en photo. Et vous allez voir que la marmotte du Vercors, elle est quand même en forme. Hein.
Voilà, mais ça fait déjà bien 3 semaines qu'elles sont sorties et elles ont eu le temps de refaire leur réserve de graisse.
Véronique, rapidement, quels autres animaux on peut croiser ici?
Alors ici, on a ce qu'on entend assez facilement, c'est le chocard à bec jaune, un oiseau tout noir, au bec jaune et aux pattes rouges, qui a un chant sifflé. Avec un peu de chance, on peut peut-être pouvoir les voir là, parce qu'ils nichent. Ah, et puis là-haut, voilà, on a un autre petit oiseau là-haut.
Mmh.
Alors, il fait des bons. Celui-là, alors, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Celui-là, j'ai un peu du mal à l'identifier. Mais sinon, on a le. Oui, il est loin. Mais on a le choc. Le traquet motteux, ici. Le traquet motteux, c'est un oiseau qui est très fréquent, c'est un petit passereau qui a la queue noire et barrée de blanc. Mais j'aimerais bien vous le montrer, parce qu'il est quand même très fréquent habituellement.
On va le laisser venir nous voir.
Voilà,
Luc, d'autres espèces que vous croisez ici régulièrement en venant herboriser?
Oh, ben, il y a beaucoup d'espèces ici qu'on trouve ici, bien sûr. La plus spectaculaire, surtout en ce moment, c'est le fameux érythrone. Dents de chien, donc qui a un bulbe qui ressemble à une canine de chien. Les Anglais appellent ça, eux, par rapport aux marbrures qu'il y a sur les feuilles, ils appellent ça la truite arc-en-ciel. C'est intéressant
mais attendez, vous nous parlez d'une fleur ou d'un animal là ?
Je parle d'une fleur.
Oui, c'est ça, vous êtes revenu sur les fleurs.
Oui, c'est très très intéressant. Moi, je voulais faire même le parallèle avec la marmotte, qui est peut-être pas un animal à bulbe, mais on pourrait presque dire...
Dans les joues, presque.
En tous les cas, elle passe sa saison de l'hiver sous terre. Hein. C'est un petit peu la même chose. Hein.
Alors, Luc, on est ici devant un parterre de fleurs blanches et jaunes. Et c'est intéressant parce que vous, en tant que scientifique, vous pouvez étudier un mètre carré, par exemple, de prairies fleuries comme ici, et en tirer beaucoup d'informations sur toutes les espèces qui sont présentes. Alors, avec Camille, je crois qu'on distingue une seule fleur.
Et on ne sait même pas quelle espèce c'est. D'ailleurs, c'est quelle espèce, hein ?
C'est une renoncule qui s'appelle la renoncule anciennement des Pyrénées, la renoncule de Kupfer. C'est un botaniste suisse, c'est son nom qu'on lui a donné.
Mais elle n'est pas seule, donc ?
Non, elle n'est pas seule. Ce carré qui paraît être un carré d'herbe, quoi, comme un carré d'herbe dans un jardin, on irait même assez vite en disant que c'est que des mauvaises herbes, alors que là, on est vraiment dans une prairie naturelle. Et quand on passe ça au peigne fin, on voit bien qu'il y a énormément d'espèces, dominées le plus souvent par des graminées, donc des espèces avec des feuilles très fines qui vont faire des hampes très hautes en plein été. Et pour l'instant, évidemment, c'est la renoncule qui domine. Mais si on vraiment notait toutes les espèces sur ce carré assez homogène, comme ça, là où on trouve les renoncules, on trouverait facilement 30 à 40 espèces.
Incroyable.
Hein ? Et ces 40 espèces, elles vivent ensemble, elles forment une association. C'est ça qui intéresse les botanistes, de retrouver des espèces qu'on retrouve dans le même milieu, hein, parce que ensemble, elles arrivent à faire leur cycle. Quoi,
Donc vous cartographiez en fait toute la région. Hein,
définit d'abord ce que c'est qu'un habitat, hein, en donnant exactement le nom de cet habitat. Est-ce que c'est une prairie humide ? Est-ce que c'est une prairie fraîche ? Est-ce que c'est un éboulis ? Est-ce que c'est une forêt ? Voilà, ça, c'est des termes qu'on utilise pour définir les habitats. Et ces habitats, après, on peut les cartographier, bien entendu, et puis on peut mettre en valeur ceux qui sont rares, ceux qui sont communs, ceux qui...
Pardon,
qui deviennent rares.
Le printemps, du coup, toutes ces espèces qui sont, on va dire, interconnectées, ça veut dire qu'elles sortent toutes aussi au même moment. Enfin, le printemps, c'est vraiment un signal. On peut quand même rappeler ce qui se passe pour que tout sorte à ce moment-là.
Ah ben, bien sûr.
C'est quoi ? C'est le soleil, c'est la chaleur.
Oui, puis beaucoup de choses qui se passent en dessous qu'on connaît pas bien, hein, bien entendu. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est une sorte de programmation, quoi. Là, le bulbe est programmé pour sortir dès les premiers rayons du soleil, dès que ça commence à se réchauffer, dès que la Terre tourne, quoi, et que le climat change.
Luc, ce que vous faites avec les scientifiques, donc, c'est de cartographier toute cette région. Vous avez sorti un atlas d'ailleurs de la Drôme. Est-ce que vous observez beaucoup de changements au fil des années, au fil des décennies ?
C'est une question qu'on nous pose très souvent. le changement, ça se voit pas aussi facilement que ça. Ouais. Hein. Il faut, les scientifiques utilisent des outils pour calculer et puis montrer ce changement. Alors donc, c'est un outil scientifique, c'est qu'on met en place des placettes sur le terrain et comme ça, chaque scientifique peut revenir avec un protocole, avec une méthode qui est toujours la même pour voir si vraiment, tous les 5 ans, tous les 10 ans...
Il y a des effets déjà qui sont notables ou pas ?
Bien sûr, ouais. On voit des espèces arborées qui remontent en altitude, bien entendu.
À cause de la chaleur,
ça, ouais. C'est des petites choses qu'on commence à voir. Mais au préalable, il faut faire l'inventaire pour savoir comment la flore change.
Quoi. Ouais. Véronique, on parlera tout à l'heure de votre association 1000 traces qui propose des stages de cuisine sauvage, hein, puisqu'on peut manger aussi certaines des plantes. On en parlera dans la seconde partie de cette Terre au Carré. Mais évidemment, il faut parler de ce paysage, parce qu'on a beaucoup décrit la faune et la flore. Mais Pierre-Aymar Biron, vous êtes géologue, ancien conservateur de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Et ce qui nous frappe aussi ici, c'est cet environnement de pierres, de roches, de cavités, de grottes qu'on a là, ici aussi, sous les yeux. Hein.
Oui. Alors, avant d'évoquer ce site, je ferai bien une petite histoire de la géologie du Vercors, très très rapide, en 3 épisodes. les roches du Vercors se sont formées sous la mer, il y a très très longtemps.
C'est-à-dire?
Entre 200 et 100 millions d'années, ouais. Au Crétacé. Une mer qui s'était créée par l'ouverture de deux plaques tectoniques. Hein. Deuxième épisode, ces deux plaques se changent de sens et se rentrent dedans, et il y a la formation des Alpes. Et là, deuxième épisode, il n'y a plus la mer. On est à 1500 mètres d'altitude.
À quelle période?
Ça a bougé. Ça a commencé à 90 millions d'années, en gros, ouais. Et ça jusqu'à 2 millions d'années.
Et donc c'est quand les Alpes se forment.
Voilà, c'est l'Europe, c'est la plaque européenne qui est rentrée dans la plaque européenne. La plaque africaine qui est rentrée dans la plaque européenne. Et le troisième épisode, c'est l'érosion. C'est dès que ça a pris de la hauteur, dès que ça a pris le phénomène de gravité, et il y a l'érosion qui s'est mise en place. Et là, on a l'illustration assez parfaite des phénomènes d'érosion dans un massif calcaire.
C'est une sorte de gruyère, on peut quasiment le présenter comme ça dans la roche. Hein.
En gros, hein, le calcaire, il se dissout avec l'eau. L'eau dissout le calcaire, ouais. comme si c'était du sucre. Donc il y va beaucoup moins vite. Et ça forme un gruyère avec des formes de relief typiques de ce qu'on voit. Ça veut dire des creux, des bosses, ce qu'on appelle un modelé karstique.
Ouais.
Le Carse, c'est une région d'Europe. Et
ces cavités extraordinaires.
On a
des
cavités, des dolines, des bosses. Et c'est marrant parce que la végétation, elle est différente dans les creux que dans les bosses.
On en reparlera avec vous dans un instant, oui. Pierre-Aymar Biron, car justement, ces grottes, eh bien, c'est le paradis des spéléologues. Et c'est justement l'objet de la chronique de Camille aujourd'hui.
France Inter. La Terre au Carré.
Et Camille Cronier, pour démarrer cette semaine, c'est spéléologie au programme.
Et oui, parce qu'il y a 3500 grottes dans le Vercors, la moitié environ dans la Drôme. Massif karstique, hein, constitué de calcaire, en altitude, avec un couvert végétal. Ça veut dire les ingrédients parfaits pour que l'eau acide vienne corroder et donc creuser des galeries. J'ai donc suivi Patrice Fialon, du comité départemental de spéléologie, pour entrer dans la grotte des Ferrières à 1104 mètres d'altitude. Donc là, on s'équipe ?
On s'équipe. Une combinaison pour ne pas vous salir et un casque avec un éclairage.
C'est bon, elle est allumée ma lumière là ?
Oui.
Ok, je vous suis. Et à peine entrée, un petit comité d'accueil, dis donc.
Là, on a des habitants là. C'est des dolichopodes, c'est pas des araignées, ils n'ont que 6 pattes. Donc, c'est des sortes de sauterelles cavernicoles. Elles sont très adaptées pour se déplacer dans la cavité. On voit des antennes très très grandes.
Comment ça s'appelle, redites-moi ?
Dolichopode. Donc c'est du Dauphiné d'ailleurs, hein. C'est endémique à la région.
Ah, ici il y a quelques petites araignées. Ah, voilà, on se baisse un tout petit peu, quelques mètres.
Donc on a des petits indices qui nous disent qu'on est bien dans du calcaire. Hein. Hein, donc le calcaire c'est une roche sédimentaire, elle s'est formée il y a à peu près 100 millions d'années au fond de la mer. Il faut imaginer ici une mer chaude et peu profonde. On voit ici des morceaux de coquillages, hein, des fossiles.
C'est donc, incroyable voilà. Penser que la mer était là. Quoi.
Donc l'ensemble de la roche dans laquelle on est là, c'est de la sédimentation au fond d'une mer.
plus d'eau du tout. Désormais, je le précise, on appelle ça une grotte fossile, mais elle ruisselle, elle goutte et forme un sacré paysage.
Waouh !
On arrive dans ce qu'on appelle une salle.
Déjà, on entend au son, hein ?
C'est plus le même son. On entend, ça résonne, hein ? Ça résonne un petit peu.
Est-ce qu'on peut décrire ce qu'il y a autour de nous ? Parce que c'est quand même assez impressionnant visuellement.
Alors ici, on pourrait dire que c'est richement décoré. On a des espèces d'énormes, assez grosses, hein, stalactites, et puis des toutes fines, des fistuleuses, qui sont comme des pailles. Et au sol, de grosses stalagmites, qui sont plutôt massives. Hein. Il y en a une qui fait presque deux fois notre taille devant nous, et 80 cm de diamètre. Et il y a même ici à droite, une stalagmite imposante, là, qui fait 4 mètres de haut, qui a rejoint une coulée, une stalactite du haut, donc on appelle ça une colonne une fois que c'est rejoint. Et donc la colonne, l'ensemble de la colonne fait 8 mètres là, de haut. Elles sont un peu comme la glace pour les glaciologues. Hein. Si on fait une carotte dedans, les scientifiques derrière, ils savent tirer beaucoup d'informations, notamment une idée du climat extérieur qu'il y avait au moment où elle s'est formée, la dater.
Des témoins du passé, mais la science se penche aussi sur la vie dans ces milieux parce que donc il y en a suite de l'expédition.
Il faut bien freiner avec les pieds et les mains.
Ouais.
Voilà. Bon. On va voir s'il y a du monde là-dessous.
Hop.
Ah, super. Un diplour.
Un quoi ?
Diplour, c'est un insecte. C'est tout petit, c'est dépigmenté, c'est tout blanc. Ils se sont adaptés, ils n'ont plus besoin d'être pigmentés parce qu'ils n'ont plus besoin de se protéger du soleil, ils n'ont plus d'yeux. Et ils ont, au contraire, ils ont développé des longues antennes pour pouvoir se déplacer dans le noir absolu. C'est sympa celui-là, ça, je l'avais jamais vu ici celui-là. Là voilà, un diplour miniature là, tout petit, encore plus petit. Et là il y a des coléoptères, Diaprisus je pense ça. Là il y a du monde. Hein. Oh là là.
Il peut y avoir aussi des crustacés.
Des crustacés, ouais, des, on appelle ça des, ceux qui sont, vivent dans les grottes, sont les nif, on appelle ça des nifargus. Et du coup c'est l'équivalent d'une mini crevette. Alors pareil, ça va être tout petit, hein, les vraiment les plus gros spécimens vont faire 2 cm. Mais souvent, c'est plus petit et ça vit dans les flaques d'eau.
Le peuple invisible des cavités. Et cadeau pour finir. Alors, je vous préviens, j'ai dû un peu donner de ma personne.
On va s'enfiler entre les blocs vers le bas, là.
Ah, faut que j'aille en dessous, là.
C'est les trois. Si on passe par ce trou-là, ça évite d'utiliser une corde. On se faufile. On est presque au bout de nos peines. Voilà, là, on est arrivé.
Et je vous propose donc de vous mettre dans la peau de cette vie quasi inconnue.
On éteint les lumières ici, on va tester. Donc là, on a vraiment le noir.
Noir total.
Total, qu'on ne trouvera pas à l'extérieur, parce qu'on a toujours la lune, les étoiles, un éclairage public. On peut aussi essayer de faire le silence.
Voilà, ça valait bien le coup de s'enfoncer dans les entrailles du massif, Mathieu.
Eh oui, c'était Camille Passauvert qui va tester plein de choses pendant toute la semaine pour la Terre au carré ici dans la Drôme. Pierre et Marbiron, est-ce que vous êtes spéléologue vous-même ?
Un tout petit peu, mais la glacière, je la connais très très peu là, ici.
Ouais. Alors vous voyez, on entend nos pas dans la neige parce qu'on est quasiment à l'entrée de cette cavité. Décrivez-la nous, s'il vous plaît, Pierre Aymar. Ouais.
Alors là, on est typiquement, c'est un des éléments de l'érosion karstique,
ouais.
Donc de cette troisième phase de l'histoire géologique. Et on a même, on a devant nous trois... On a le calcaire qui illustre la première phase. La grotte, elle est sur une très grosse faille géologique qui illustre la deuxième phase, épisode. Et là, on a toute l'érosion. C'est le troisième épisode. Et on a la grotte s'est formée au niveau avec l'aide de la faille.
Ouais.
La faille, ça a été un point de faiblesse où l'eau
a pu s'insérer, ouais.
Écarter tout ça, voilà. Et c'est une glacière parce que par rapport à deux phénomènes. D'abord, le creux accumule la neige par le vent. En gros, l'hiver, ça se remplit de neige. Et il y a un courant d'air à l'intérieur, froid, qui maintient la glace. Et cette glace, historiquement, elle a été exploitée pour une utilisation humaine, pour
pour maintenir au frais,
ouais, pour conserver, la viande, et même pour aller mettre un peu de glace dans le pastis.
Ah bah tiens, bien sûr. Voilà. Ouais. Vous n'êtes jamais entré dans cette grotte.
Oui, je suis rentré, mais je l'ai
vous
pas fait.
Vous l'avez pas expérimenté.
Je suis rentré et c'est impressionnant. Le courant d'air.
Bougez pas, j'y vais.
À l'intérieur, le froid.
Alors on a notre spécialiste maintenant. Hein.
Et ce qui est plus impressionnant, c'est quand on sort, c'est la bouffée de chaleur.
Ouais. Véronique, vous êtes allée en spéléo ou pas?
Alors en spéléo non, je ne suis pas allée au fond de cette grotte, mais sous le porche et dans l'entrée, ouais. Effectivement, c'est très facile d'y aller avec les groutes. Il y a de la lumière, on n'a pas obligé d'avoir un équipement.
Ouais. Mais je précise que j'ai appris hier que dans les grottes du coin, il y a une température constante aux alentours de 9-10 degrés. Hein, donc il ne fait pas si froid à l'intérieur de la grotte.
Ouais, la température de la grotte, est, en gros, c'est la moyenne de la température de l'année. C'est-à-dire n'importe où, si la température de l'année, c'est 6 degrés, dans la grotte, ça va faire 6 degrés. Mmh.
Régis Sucavet, est-ce que vous êtes entré dans cette grotte?
Un petit peu, j'ai pénétré un petit peu dans cette cavité, mais comme Pierre Aymar, c'est pas trop mes quartiers. Moi, je travaille plutôt sur le Vercors.
C'est votre quartier du Nord. Oui. Vous qui êtes archéologue et préhistorien, vous avez co-créé la société d'archéologie préventive Paléotime. Et vous êtes le président de l'association pour la valorisation et la diffusion de la préhistoire alpine et membre
du conseil scientifique de la réserve naturelle nationale du haut plateau du Vercors et du parc du Vercors.
Voilà, tout le monde est cité. Voilà. Alors,
c'est beaucoup, je suis désolé. Hein.
Alors, on voit énormément de cavités, on le disait tout à l'heure. D'abord, alors, j'ai deux questions rapides. Est-ce qu'on trouve beaucoup de fossiles? Et est-ce que nos ancêtres préhistoriques ont fréquenté cette cavité là en face de nous, cette glacière?
La réponse est non, puisque
les
hommes ne fréquentaient pas les grottes. S'ils les fréquentaient, ils n'y habitaient pas.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Pierre Aymar a dit tout à l'heure, la température est positive, mais toujours basse. C'est toujours très humide. Et puis souvent, à l'époque, il y avait des locataires. Par exemple, la sortie d'hivernation d'un ours brun, c'est pas très agréable.
Oui.
Et puis Néandertal et même les gens du Paléolithique supérieur pouvaient y rencontrer des ours des cavernes qui ont aujourd'hui disparu en même temps que le mammouth et le rhinocéros laineux.
Ouais. Et alors, quelle est la particularité de la préhistoire alpine alors?
Elle est alpine en ce sens que les hommes sont des saisonniers, notamment à partir de la fin des temps glaciaires, qu'on va dater d'autour de 12 000 ans avant notre ère, sont des saisonniers qui montent en montagne en été à la recherche des espaces d'altitude et qui redescendent sur les piémonts pour passer la séquence automne-hiver.
Et des fossiles, alors on en trouve ici beaucoup ou pas?
Alors des fossiles, il faut voir Pierre Aymar pour ça, parce qu'on est au stade du Crétacé. Moi, je m'occupe des outils fossiles, effectivement, de la préhistoire, c'est-à-dire souvent ce sont des silex que les hommes nous ont laissés, la plupart du temps en plein air, car ces gens-là aimaient bien vivre au soleil, ouais, et à la lumière.
Alors là, avec le Crétacé, on remonte à 150 millions d'années.
Oui, 120 millions d'années le Crétacé, ouais. Et on trouve peu de fossiles dans le Vercors.
Ouais.
On en trouve quelques-uns. Souvent, il faut les voir au microscope. Et les fossiles nous permettent de donner l'âge de la roche.
Oui. Et comment on date ça, justement, alors, Pierre Aymar?
Alors, c'est compliqué, c'est tout.
Parce
c'est
que là, la roche là, sur laquelle on met les pieds, là, c'est une roche qui était donc sous l'eau à l'époque, dans un milieu tropical. Hein, c'est
oui,
ça, il faut imaginer vraiment.
Des coraux.
Ouais.
Oui, oui.
Comme la grande barrière de corail aujourd'hui.
Oui, voilà, tropical, 10 mètres d'eau au-dessus, le soleil qui pénètre, donc qui permet la vie des coraux.
Ouais.
Et là, on est sur des dalles de calcaire qu'on appelle dans le Vercors des lapiases. Les lapiases, c'est une dalle de calcaire complètement modelée par l'eau, sculptée par l'eau.
Ouais. Et alors, Véronique, alors pardon de comparer, mais c'est vrai que pour les auditeurs qui ne voient pas exactement l'endroit où on se trouve, ce paysage peut faire penser à d'autres sites dans le monde. Hein.
Oui, traditionnellement, elle est surnommée la petite Mongolie,
ouais,
en fait. Voilà, parce que ça fait un paysage stépique, même si du point de vue purement scientifique, la végétation n'est pas une végétation de steppe. Ça fait penser un petit peu à ça. Pour revenir juste un tout petit peu, oui, sur la glacière, elle est intéressante, cette glacière aussi, parce qu'en fait, elle abrite des nids de tout un tas d'animaux. Il y a des chauves-souris qui viennent se mettre là en gîte d'été, et puis les chocards qui nichent dedans.
Ouais.
Régis Picavet, nos ancêtres préhistoriques, donc ils vivaient sur ce sur ce plateau, sur ce massif. Est-ce que le printemps, puisqu'on célèbre aussi le printemps aujourd'hui, on sait s'il y avait des choses particulières qu'il faisait au printemps, qu'il ne pouvait pas faire l'hiver ou pas du tout?
Il faut bien savoir de quelle période nous parlons, parce qu'il y a eu des périodes de climat complètement steppique où il n'y avait pas d'arbres. Mais si on considère la préhistoire tardie et post-glaciaire, à l'époque où la forêt envahissait pratiquement tout le continent, on montait en montagne, à mon sens, pour sortir de la forêt. Et bien sûr que le printemps, c'était un peu une renaissance, comme une transhumance. D'ailleurs, on a sous les yeux ici un enclos pastoral avec une cabane.
Ça, c'est préhistorique, là,
ce qu'on a sous là ? Non, pas du tout. C'est historique, mais ça reste l'archéologie quand même. C'est très intéressant. Voilà. Donc, le printemps n'est pas forcément lié à l'émergence d'un gibier quelconque.
On taillait la pierre ici, Régis, ou pas? Parce qu'on voit qu'il y a tellement de roches partout. Est-ce que s'en est servi pour faire
un silex? Oui, alors on taillait le silex. Le silex est une roche siliceuse qu'on va opposer aux roches carbonatées du calcaire, qui était activement recherchée pour la fabrication des outils et armes de chasse. Il se trouve qu'ici, tout près, il y a Vassieux en Vercors avec des gîtes de silex naturel très importants, et même le pas de l'Infernet, qui est juste derrière la colline, là, où il y a beaucoup de silex natifs qui étaient largement utilisés par les préhistoriques.
Ouais. Luc, un mot sur... Parce que hier, pendant le repérage, là, tu nous as emmené juste au bout de ce chemin. On pourra pas y aller là, parce que ça demande quand même un petit peu de marche. Mais je voudrais juste qu'on le décrive, parce que c'est exceptionnel, hein, ce site donc à Fondurle, qui nous permet d'embrasser tout le Vercors et la Drôme, une bonne partie de la Drôme.
Alors, on l'a dans le dos, on a le Vercors dans le dos. Quand on passe la porte d'Urle, hein, là où ça souffle, hein,
c'est ça.
Le vent hurlant, et on se retrouve à ce moment-là avec un panorama sur les Alpes du Sud.
Ouais.
On voyait un petit peu le Ventoux hier.
C'est vrai.
Vous voyez la forêt de Sours, la montagne d'Angèle, toutes ces montagnes de la Drôme qui font partie des secteurs qu'on appelle le Diwa et les Baronnies. Très près d'ici, hein, mais c'est vraiment un climat et une flore et une végétation complètement différente.
Et c'est le fond d'Urle, c'est vraiment ça. Urle, c'est hurler, pour hurler, comme le vent qui s'engouffre.
C'est le nom du vent.
Ouais. Et justement, je vais dire, c'est-à-dire que les espèces qui se développent ici, on va dire, toutes les espèces ne pourraient pas s'adapter à ces conditions-là.
Ben non, parce qu'il n'y aurait pas assez de chaleur, il y aurait trop de neige, il leur faudrait un cycle beaucoup plus long, avec une chaleur beaucoup plus longue. Hein, imaginez que la végétation commence avec 5 degrés. On va dire qu'une plante commence à pousser quand il fait 5 degrés. Alors évidemment, s'il lui faut 6 mois pour faire son cycle et qu'il n'y a que 4 mois où il n'y a que 5 degrés, ça ne marche pas. Alors dès qu'on va passer la porte de l'eau, on va tomber dans les Alpes du Sud. Et là, tout de suite, c'est vraiment très intéressant. Il suffit de prendre le col de Rousset. Vous sortez de la forêt du Vercors, sapin et être extrêmement sombre, vraiment froide.
Ouais.
Et puis hop, dès que vous basculez dans les lavandes, dans le thym qui remonte très très vite.
Les lavandes, c'est un peu tôt pour les voir là encore.
Oui, mais on les voit très bien sur le... Oui, c'est au mois de juin.
C'est ça. Mais c'est vraiment aussi un des paysages typiques typique, la Drôme, typique. Bien sûr. Allez, on va retourner voir les jonquilles, on va redescendre un petit peu. Le vent commence à souffler ici à 1500 mètres d'altitude. Et puis avant la fin de l'émission, on retrouvera le premier reportage de cette semaine d'Anaël Verzo, consacré aux luttes ici dans la Drôme. Et le premier sujet sera consacré à la lutte contre la centrale du Tricastin. Mais pour l'instant, c'est Loni avec Comme la fin du monde.
La Terre au carré dans la Drôme, c'est toute la semaine sur France Inter.
Tu vois, derrière la lune, le sable rouille. On voit du rouge qui coule sur l'écume. Légende de la mer.
Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Mais j'ai perdu Camille.
Non, je suis là.
Mais Mathieu, où êtes-vous?
Je profite, regardez, je suis en train de sautiller au milieu des fleurs et de la prairie.
Alors moi qui vous attends dans ce champ de jonquilles.
Enfin, j'essaie de ne pas sautiller dessus non plus parce que j'ai pas envie de détruire ce beau patrimoine floral.
Alors justement, ça c'est une question que je voulais vous poser, Pierre-Aymar Biron. Ce plateau sur lequel on se trouve, donc ce plateau de Fondurles, hein, donc dans la Drôme, pour ceux qui nous rejoignent pour cette première journée de la Terre au carré, c'est classé comme espace naturel sensible. Ça veut dire quoi exactement? Alors par exemple, parce que c'est vrai qu'on est là en train de marcher au milieu des fleurs, on en écrase évidemment certaines. Je crois qu'il y a toute une réglementation ici. Oui. Hein.
Non, mais les espaces naturels sensibles, c'est des mesures de protection d'un territoire qui le mérite, et c'est des mesures du département.
Ouais.
Pas loin d'ici, il y a les hauts plateaux du Vercors. C'est un milieu qui ressemble beaucoup à celui-là. C'est des hauts plateaux calcaires. C'est la plus grande réserve naturelle nationale de France métropolitaine et terrestre.
Ouais.
Elle fait 17 000 hectares.
Ouais.
Ça veut dire que c'est, de façon un peu imagée, il faut, pour la traverser du nord au sud, il faut 2 jours.
Ouais.
À pied.
Et alors, donc, il y a une réglementation particulière ici pour protéger toutes ces fleurs.
Chaque espace a sa réglementation.
Ouais.
Là, il y a une réglementation. C'est un espace qui est géré.
Alors, attendez, parce qu'on n'a pas de micro, là, pour vous entendre. Il faut vous présenter. Bonjour.
Annick Lotte, éco-garde,
ouais.
À l'espace naturel sensible de Fondurles. Et donc, ici, le département, en tant que propriétaire, a classé cet espace et a mis un règlement intérieur qui est lié à un plan de gestion qui va tenir compte des différentes activités qui se tiennent sur ce plateau.
C'est-à-dire que je ne peux pas, évidemment, je ne le ferai pas, mais je ne peux pas, si j'ai envie, là, cueillir mes petites jonquilles pour me faire un joli petit bouquet.
Eh ben, il va falloir être très raisonnable, effectivement, et ne pas cueillir ce que vous pouvez voir comme ça tous les printemps. Il suffit de revenir chaque printemps,
respecté,
ils sont là.
C'est respecté, Luc Garraud?
Je ne sais pas si c'est respecté, mais la réglementation dit, c'est un arrêté préfectoral de cueillette qui dit qu'on peut ramasser un bouquet par jour et par personne.
Un bouquet, c'est quoi?
Voilà. Il nous regarde en faisant les gros yeux.
Un bouquet, ouais. ce qu'on tient la main, donc c'est assez abstrait.
Sauf que dans la réalité, c'est pas ça, clairement. Hein.
Dans la réalité, ça sert à quoi de ramasser un bouquet qui va faner sur la plage arrière de la voiture? Alors, donc ça, on peut se poser la question. Et puis, donc ce bouquet, on peut le garder que pour soi. Ça, c'est la réglementation. On n'a pas le droit de le colporter, ni de l'échanger, ni de le vendre, ni de le donner. Donc voilà, ça limite un petit peu les choses. Donc, il n'y a pas d'interdiction de cueillette.
Ouais.
Sauf si l'espace naturel sensible ici l'a interdit, parce que dans son espace on peut faire des interdictions aussi.
Alors ça c'est étonnant parce qu'on a fait quelques mètres, hein, on est redescendu un petit peu et tout d'un coup voilà,
c'est magnifique.
On est au milieu de ces jonquilles.
J'ai envie de m'allonger dedans tellement c'est beau.
Ces fleurs qu'on voyait pas à quelques mètres au-dessus. Hein,
ah oui, c'est Luc. Ça. On a changé de type de sol. Le sol s'est acidifié. On reconnaît, on voit arriver dans ce sol deux espèces caractéristiques des sols acides.
Ouais.
La myrtille, hein, les petits buissons de myrtille qu'on devine là ici, qui sont pas encore en feuilles.
Ouais.
Et puis la bruyère commune, la calune, qui commence à pointer aussi. Hein. Donc ça, c'est un très bon indicateur écologique pour la présence de la jonquille.
Les jonquilles, pourquoi elles sont toujours parmi les premières à sortir?
Pourquoi? Ben c'est exactement pareil. C'est ces espèces de bulbeuses qui passent la saison à attendre et ça piétine sous les névés, si on peut dire. Et puis ça sort à ce moment-là. C'est vraiment leur type biologique qui fait ça. Comme les crocus, comme d'autres espèces qu'on a vues. Hein.
Allez, on va profiter des jonquilles, mais pas seulement parce qu'il y a d'autres fleurs au milieu de ce parterre. Et à l'occasion de cette semaine dans la Drôme, vous le savez aussi, je vous le disais tout à l'heure, notre reporter Anaëlle Verzeau s'intéresse toute la semaine aux luttes qui sont menées ici dans le département. Et pour ce premier rendez-vous, elle s'est rendue sur le marché de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la commune qui héberge la centrale nucléaire du Tricastin. Le 15 avril dernier, le collectif Stop Tricastin y distribuait des tracts et tentait de convaincre.
Deux fouilles ou une petite plaquette? Comme vous avez pas de
fouilles. Je suis un ancien du nucléaire.
Vous faisiez quoi comme travail à la centrale?
Je faisais du suivi physique, c'est-à-dire je suivais la traçabilité de l'uranium dans une installation.
Donc du coup, vous considérez que comme ça vous a fait vivre, on ne va pas la supprimer cette centrale?
Surtout pas supprimer, et puis avec ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait s'en passer. Non, non, je suis pour le nucléaire, ça n'a fait que du bien dans la région.
On se trouve sur le marché de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le sud Drôme, et là je suis avec Alain Vol, porte-parole du collectif Stop Tricastin, qui se bat avec d'autres membres du collectif contre
la centrale nucléaire. Là, vous avez sorti des tracts, Alain. Non à l'EPR à Tricastin. Alors, Alain, contre quoi vous vous battez ?
Le problème immédiat, c'est que les 4 réacteurs de la centrale de Tricastin ont passé les 40 ans.
40 ans, c'est la date limite.
40 ans de vie qui était leur date de vie pour lesquelles ils étaient à la base programmés. Et maintenant, EDF voudrait les prolonger au-delà, aller jusqu'à 50, voire 60 ans.
Et où est le problème, selon vous ?
Eh bien, le problème, c'est que ces 4 réacteurs sont en mauvais état. Il y a des incidents de plus en plus nombreux. Et en particulier, le réacteur 1, qui est le plus ancien, ce réacteur a 20 fissures sur sa cuve. Et la cuve, c'est un matériel que l'on ne peut absolument pas remplacer. En 10 ans, il y a eu à Tricastin 147 incidents, de niveau 0 à niveau 2. Et le réacteur numéro 1 en totalise lui-même 44. Donc, un réacteur vieillissant, avec beaucoup d'incidents, qui a 20 fissures sur sa cuve, et qui en plus, j'ai oublié de le préciser, est situé en zone sismique. Et il se trouve que les réacteurs de Tricastin ont la particularité d'être installés contre une digue en terre, qui est la digue du canal de Donzère-Mondragon, qui apporte l'eau pour refroidir les réacteurs. La base des réacteurs est à 6 mètres en dessous du niveau de l'eau. Ça veut dire que si il y avait un tremblement de terre, et il y en a eu un en 2019 à Tricastin, s'il y avait un tremblement de terre et que la digue s'écroule, les 4 réacteurs seraient noyés. Et dans ce cas-là, les cœurs fondraient et on se retrouverait en situation de Fukushima. Eh bien, nous, on est très inquiets. Et donc, ce que nous battons pour arrêter ces vieux réacteurs à la date des 40 ans.
Bonjour.
Je voudrais vous parler du nucléaire. Vous habitez ici ?
Oui.
Vous avez vos pastilles d'iode chez vous ?
Non.
Ah, et s'il y a un nuage un jour ?
Bah écoutez, mon homme travaille par là-bas. On a reçu le courrier et tout, mais c'est vrai qu'à Saint-Paul, ils n'ont pas voulu nous les donner. Donc, il fallait aller à Bagnols-sur-Cèze. Et Bagnols-sur-Cèze.
D'accord.
Voilà.
Oui, enfin, donc, on n'est pas parfaitement prêt en cas d'incident.
Non.
Votre conjoint travaille où ça ?
Il travaille pour la centrale.
Moi, je vous donne un tract, comme ça. Vous pensez que ça vaut le coup aujourd'hui de continuer à prolonger ces vieilles casseroles du Tricastin ?
Ah bah, non, mais après, je vous dis, j'ai pas d'avis. Merci à vous.
Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Je suis partagé. Ouais. Donc je reste prudent, je suis aussi voisin avec quelqu'un qui travaille en maintenance à la centrale du Tricastin. D'accord. Donc c'est pour ça que...
Qu'est-ce qu'il vous dit votre voisin ? Il vous en parle des fois ?
Alors, il a un devoir de réserve de toute manière.
Mais il vous en parle quand même, j'imagine, en tant que voisin ?
Oui, il en parle et effectivement, il fait part de certaines inquiétudes, je ne le cache pas.
Vous vous appelez comment ?
Xavier. Et je peux...
J'allais oublier l'essentiel.
D'accord, quand
alors,
même.
Vous lirez les éléments, après vous réfléchissez.
Oui. Non, mais c'est intéressant, ça m'intéresse.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir, bon marché alors. Au revoir.
Des sushis ?
Kimchi.
Ah, c'est que ça, il faut que j'en ai
là-bas. Voilà, reportage signé Anaël Verzo. Et demain, pour poursuivre notre série sur les luttes, nous irons dans la vallée de la Drôme à Oust-sur-Scie, où les habitants se divisent en ce moment sur l'implantation d'un magasin Lidl. Régis Picavet, notre historien archéologue, le 9 juillet, vous donnerez une conférence au musée de la préhistoire du Vercors à Vessieux-en-Vercors, non loin d'ici. Ça sera quel thème exactement ?
Alors, ça s'appelle l'eau de vie. Alors, c'est pas un jeu de mots, enfin, c'est un jeu de mots. C'est-à-dire que l'eau est si rare ici que souvent la présence de l'eau a commandé les installations humaines. Et donc, on traitera la préhistoire sous cet angle.
Ouais. Pour parler des chasseurs-cueilleurs, par exemple
Pour parler des chasseurs-cueilleurs qui sont restés présents au Mésolithique jusque vers 5500 avant notre ère et de l'arrivée des premiers peuples pasteurs paysans qui arrivent vers 5200 à peu près et qui vont complètement. Abandonner la montagne à cette occasion.
Et ce sera donc
installé sur les piémonts.
Le 9 juillet au musée de la préhistoire du Vercors à Vessieux-en-Vercors. Luc Garraud, vous avez publié un ouvrage de référence sur la flore de la Drôme. C'est un atlas écologique et floristique. C'est aux éditions du Conservatoire Botanique National. Ça, c'est le grand inventaire que vous réalisez,
Oui, un inventaire qu'on continue surtout. C'est pas le tout de faire un livre et de poser une pierre à un moment. Il a déjà une quinzaine d'années. C'est...
Ouais.
Et donc l'inventaire continue, bien entendu. C'est permanent. Il faut absolument connaître, encore savoir l'état des lieux de la flore sur notre territoire.
Et puis Véronique Thierry, si on veut cuisiner et déguster également des plantes,
fleurs,
on peut venir vous rencontrer avec l'association Mille Traces.
Bien sûr, venez avec Mille Traces. Voilà, nous
On n'écrit pas de livres, on est vraiment des gens de terrain, donc venez nous rencontrer pour cuisiner, faire de la teinture végétale, faire du pistage d'animaux, observer, se perdre dans la nature. Et
merci beaucoup à vous. Merci Pierre-Aymar Biron, également notre géologue aujourd'hui sur cette première étape. Demain, Camille, on reprend la route.
On va à Diolfi.
Exactement, pour parler de l'esprit écolo dans la Drôme avec les habitants de cette commune et la visite d'un voisin, l'écrivain Pablo Servigne. Donc rendez-vous demain. Merci beaucoup à tous. À bientôt.
Bon après-midi.
Merci. Au revoir.